Todd Marvel, détective milliardaire, de Gustave Lerouge. 11e épisode, l'arbre vampire. Chapitre 1er, sur la grande route. Deux tramps, de minable allure, et qui paraissaient prêts de succomber à la fatigue et à la chaleur de ce torride après-midi, suivaient lentement la grande route, bordée de palmiers géants qui part d'Hollywood, la cité des cinémas à Los Angeles, et se dirige vers le sud. Tous deux étaient gris de poussière, et leurs chaussures, qui avaient dû être d'élégantes bottines, semblaient sur le point de se détacher d'elles-mêmes de leurs pieds endoloris, tant elles étaient crevassées, déchiquetées par les cailloux aigus des chemins. « J'ai soif !» grommela tout à coup le plus jeune des deux, un maigre gringalet au nez crochu, au menton de galoche, qui ressemblait à une vieille femme très laide. Son camarade, un vigoureux quadragénaire dont les façons gardaient, malgré ses loques, une certaine allure de gentleman, eut un geste d'impatience, et montrant d'un geste les champs de citronniers et d'orangers qui bordaient la route à perte de vue et qui irriguaient de petits ruisseaux artificiels d'une eau limpide et bleue. « Désaltère-toi » fit-il avec mauvaise humeur. Les deux tramps échangèrent un regard chargé de rancune, comme si chacun d'eux rendait l'autre responsable de l'affligeante situation où ils se trouvaient. Ils se remirent en marche silencieusement, pendant que le plus jeune suçait goulûment le jus de quelques fruits arrachés à des orangers en bordure de la route. « Je suis dégoûté des oranges, moi » reprit-il en lançant au loin avec colère le fruit dans lequel il venait de mordre. « Il y a 2 jours que je n'ai pas mangé autre chose. J'en ai assez !»« Et moi, donc ?» repartit aigrement son compagnon. « Je donnerais n'importe quoi pour une belle tranche de jambon fumé, ou même d'un simple rosbif entouré de pommes de terre. C'est ta faute aussi, si nous en sommes réduits là. Si tu n'avais pas perdu au jeu nos dernières banknotes. Si tu ne t'étais pas bêtement laissé voler le reste. Zut ! Ah, tu m'embêtes ! J'ai envie de te planter là. À ton aise, ce n'est pas moi qui perdrai le plus. À savoir, si tu me lâches, tu peux faire ton deuil de tes projets de réconciliation avec le docteur Klaus Christian. Et sans lui, tu n'es pas capable de te tirer d'affaire. Tu n'es qu'une épave, qu'un gibier de prison. Gibier toi-même ? Tu ne t'es pas regardé ? La discussion menaçait de s'envenimer quand les deux tramps s'arrêtèrent net à la vue d'une grande affiche rouge collé sur le tronc d'un palmier centenaire. Avis important. Une récompense de $5,000 est offerte à quiconque pourra donner des renseignements sur 2 dangereux malfaiteurs actuellement recherchés par la police de l'État de Californie et inculpés de meurtre, de vol et de faux. Ce sont les nommés Havelock Daddy, surnommé Dad ou Petit Dad, âgé de 18 ans, et Toby Cragen, âgé de 40 ans. Suivaient les signalements détaillés. Les deux vagabonds se regardèrent avec inquiétude. Ils n'avaient plus aucune envie de se chamailler. « Ils finiront par nous pincer !» grommela Dad. « Il y en a partout de ces mauvaises affiches. Je vais toujours commencer par déchirer celle-ci. Ça en fera une de moins. » Et avec l'aide de Toby, il se mit aussitôt en devoir d'arracher le compromettant placard, ce qui n'était pas aussi facile qu'il l'aurait cru tout d'abord, à cause de l'excellente qualité de la colle et du papier. Ils étaient si absorbés par ce travail qu'ils n'entendirent pas s'approcher d'eux un personnage aux formes athlétiques qui, depuis quelques instants, les observait cachés derrière le tronc d'un palmier. Au moment où il y pensait le moins, Dad sentit une lourde main s'abattre sur son épaule. Le nouveau venu, à peu près vêtu comme un cow-boy, portait un chapeau de fibre de palmier à large bord à la mode mexicaine, de hautes bottes montantes, et sa ceinture était ornée d'un énorme Browning. Sur ses talons venait un de ces formidables dogs de la Floride appelés Bloodhounds, dont la férocité est remarquable et qui sont les descendants de ceux que les Espagnols et plus tard les Anglais employaient à la poursuite des esclaves marrons. L'homme et le chien paraissaient d'ailleurs avoir une vague ressemblance. Ils avaient les mêmes mâchoires démesurées, le même rectus découvrant des crocs acérés, de façon qu'on eût pu se demander si ce n'était pas l'homme qui montrait les dents et le chien qui souriait. En sentant sur son épaule le contact d'une main étrangère, Dad s'était dégagé d'un brusque mouvement et d'un bond était venu se ranger près de Tog. L'homme n'en parut nullement décontenancé. Il éclata d'un rire qui ressemblait à un aboiement et qui avait quelque chose de sinistre.
« Inutile de chercher à me fausser compagnie, » déclara-t-il. « Mon chien, Bramador, aurait vite fait de vous rattraper. Écoutez-moi donc tranquillement, c'est ce que vous avez de mieux à faire. »
Ted et Toby échangèrent un coup d'œil. Ils ne comprenaient que trop qu'ils étaient en état d'infériorité et d'autant moins capables de livrer bataille à cet insolent étranger qu'ils n'avaient d'autres armes que leurs couteaux. Ils se demandaient anxieusement où ils voulaient en venir.
« Je vous ai vu déchirer l'affiche, » continua-t-il,
et son cruel sourire s'accentua.
« Il n'est pas difficile de deviner pourquoi. C'est vous deux, certainement, dont la capture est estimée à 5 000 $. Beaucoup trop cher, à mon avis. »«
Naturellement, » interrompit Dad, dont les petits yeux jaunes étincelèrent, « vous allez nous livrer pour la prime ?»«
Je n'ai pas encore décidé ce que je ferai à cet égard, »
fit l'homme avec un gros rire brutal.
« By job, c'est une jolie somme que 5 000 $. »
Il ajouta en soupesant, pour ainsi dire, d'un regard de mépris, les deux bandits éreintés et désarmés.
« Ce n'est pas que ce me serait bien difficile. Je crois qu'à la rigueur, Bramador s'en chargerait à lui tout seul. »
Il eut un nouvel éclat de rire qui eut le don d'exaspérer prodigieusement Dad et Toby. Ils comprenaient qu'ils étaient entièrement à la merci de cet homme et qu'ils s'amusaient de leur terreur comme le chat joue avec la souris.
« Enfin !» s'écria Toby impatienté. « Que voulez-vous de nous ? Dites-le ! Si vous devez nous livrer, vous n'avez qu'à le faire. Finissons-en. Nous irons en prison et tout sera dit. »«
Nous en avons vu bien d'autres !»
ajouta Dad, qui avait reconquis tout son sang-froid. L'homme cessa de rire et ne répondit pas tout d'abord. Il réfléchissait. Ses yeux gris, à demi cachés sous d'épais sourcils, allaient alternativement de l'un à l'autre des deux bandits.
« Je ne vous livrerai pas !»
déclara-t-il tout à coup d'un ton bourru, mais qui s'efforçait d'être cordial.
« Je ne suis pas homme à faire une chose pareille. Je vais au contraire vous donner le moyen de vous sauver tout en gagnant de l'argent. Mais il faudra exécuter mes ordres aveuglément. »«
Et si nous refusons ?» demanda Toby, qui avait compris instantanément que du moment qu'on avait besoin d'eux, la situation changeait et les avait barres sur leur adversaire.
« Dans ce cas, je ferai ce qu'il faut pour toucher la prime. »«
Mais si nous acceptons ?»
fit Dad à son tour.
« Vous aurez 1 000 $ tout de suite et autant après. »
Dad et Toby se consultèrent du regard.
« Acceptez !»
firent-ils d'une seule voix.
« Même s'il s'agit de supprimer quelqu'un ?»
reprit l'homme, dont le regard cruel pesait sur eux.
« Cela va de soi !»
repartit Dad, en haussant les épaules avec insouciance.
« Dites-nous maintenant ce qu'il faut faire !»«
Venez avec moi, je vous le dirai. Et d'abord, marchez devant moi. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il est inutile d'essayer de fuir. »«
Ce serait idiot de notre part !»
répliqua Dad avec beaucoup d'à-propos.
« Ce n'est pas notre intérêt !»
Quittant la grande route, les trois bandits s'étaient engagés dans un sentier qui séparait deux champs d'orangers et que bordaient des cactus aux épaisses feuilles rondes et grasses, gardées de milliers de piquants, plus fins que les plus fines aiguilles. À cause de l'étroitesse du sentier, ils avançaient en file indienne. Dead en tête, puis Toby, enfin le sinistre inconnu et son Bloodhound, qui ne le quittaient pas d'une semaine. Au bout d'une demi-heure de marche, le caractère du paysage s'était modifié. Aux champs d'orangers et de citronniers avaient succédé les bois de lauriers, de chênes et de séquoias. Le terrain plus accidenté était coupé de vallons étroits, hérissés de gros rochers, couverts d'une épaisse toison de mousse couleur d'or.
« Sommes-nous bientôt arrivés ?» demanda tout à coup Toby, qui tenait à peine sur ses jambes. « Dans 3 quarts d'heure !» répondit froidement l'inconnu.
Après réflexion cependant, il tira d'un sac de cuir une boîte de corned beef, dont il fit cadeau à ses associés, qu'il gratifia également de quelques gorgées de whisky. Après ce lunch, dont Toby et Dad avaient le plus grand besoin, on se remit en marche plus allègrement. Il faisait une chaleur accablante. et qui semblait s'augmenter à mesure que les bandits descendaient la pente d'un profond ravin, orienté au midi et bordé d'une falaise de calcaire dont les parois blanches, taillées à pic, réverbéraient d'aveuglante façon les rayons du soleil tropical. Au fond du ravin coulait une petite source qui, faute d'exutoire, formait un véritable marécage d'où s'élevait un fouillis de lianes, de plantes grasses et d'arbres entrelacés dans un désordre inextricable. Des milliers de mouches et d'insectes aux vives couleurs bourdonnaient autour de ces végétaux hérissés de piquants, chargés presque tous d'étranges fleurs, dont l'odeur était si violente qu'elle avait quelque chose de répugnant et de fétide. C'était comme si l'on eût combiné la puanteur de la chair pourrie au délicieux parfum du jasmin et du chypre. À mesure qu'ils approchaient, Dad et Toby se sentaient envahis par une pénible sensation, et ils remarquèrent que Bramador donnait, lui aussi, des signes d'inquiétude et n'avançait qu'à regret derrière son maître. Dad n'avait jamais vu de tels végétaux. Quelques-uns avaient l'air de nids de serpents, avec des paquets de lianes vertes armées de piquants que terminaient des fleurs qu'on devinait vénéneuses, avec des pétales qu'on eût cru barbouillés de vert-de-gris ou de sang caillé. D'autres ressemblaient à un potiron hérissé de dards acérés et ouvraient de larges corolles d'un jaune fiévreux taché de pustules livides comme atteintes de quelques lèpres végétales. Dans l'eau noire du marais, d'où montait une buée malsaine, se jouaient des serpents d'eau et des grenouilles taureaux, fort occupés à donner la chasse à des myriades de grosses sangsues. Dad et Toby se regardèrent. Ils se sentaient accablés par l'atmosphère d'horreur et de mort qui planait visiblement sur ce marécage maudit. Ils se demandaient dans quel but on les avait amenés là. Alors, ils virent quelque chose de stupéfiant. Presque au bord du fourré, il y avait un arbre dont les larges feuilles grasses, d'un vert bleuâtre, trempaient dans l'eau du marais, et ses feuilles, longues de plus d'un mètre, étaient réunies par paires et affectaient la forme d'une coque allongée, réunie par une sorte de charnière à la feuille voisine, et l'intérieur en était hérissé de pointes aiguës. Tout à coup, un joli lézard orangé, qui jouait au bord de l'eau, glissa dans l'intérieur d'une des feuilles, et aussitôt, avec une rapidité silencieuse, les deux coques se rejoignirent comme un livre qui se referme, et l'animal disparut. Dad se sentit frissonner. L'inconnu éclata de rire.
« Eh bien, qu'est-ce que vous avez ? » fit-il. « On dirait que vous n'avez jamais rien vu. »«
Que va devenir le lézard ?» demanda Toby.
« S'est laissé pincer, tant pis pour lui. Actuellement, la feuille est en train de le dévorer tout doucement. » Quand elle l'aura complètement digéré, elle ouvrira de nouveau ses deux battants en attendant une autre proie. On appelle cet arbre-là l'attrape-mouche. Et tenez, voilà une grosse libellule rouge qui vient de se laisser prendre. Mais l'arbre n'est pas difficile à nourrir. Il mange tout ce qu'on lui donne. Une fois, j'ai vu un petit oiseau tomber dans le creux d'une feuille. Ha, ça n'a pas été long. On l'a entendu crier une minute. Puis plus rien. La feuille l'avait avalé. Sans en rien laisser que les plumes.
Dad et Toby écoutaient le cœur serré d'une étrange angoisse. L'inconnu poursuivit, comme s'il eût pris un véritable plaisir à leur expliquer par le menu, les mœurs de l'horrible végétal.
Celui qui s'occupait de ces arbres autrefois, maintenant il est mort, leur apportait tous les jours de la viande crue. C'est lui qui, à force de soins, est arrivé à leur donner ce prodigieux développement. Et si je vous disais, ajouta-t-il, après un moment d'hésitation, qu'une fois, moi, j'ai trouvé entre ces deux grosses feuilles quelque chose qui ressemblait à un squelette.
Ah ça ! S'écria Dad, haletant, comme sous l'oppression d'un cauchemar. Pourquoi nous racontez-vous tout cela ? Pourquoi nous avez-vous amenés dans cet endroit ? Qu'attendez-vous de nous ?
Il fallait que vous ayez vu l'arbre. Cela était nécessaire pour la besogne dont je vais vous charger.
Quelle besogne ?
Balbutia Dad, oppressé par l'angoisse.
Venez par ici.
Ils contournèrent en silence les bords du marais empoisonné, et arrivèrent à l'autre extrémité du ravin, d'où ils sortirent par une brèche étroite, une sorte de défilé, dû sans doute à une convulsion volcanique. Là, le panorama changeait brusquement, comme la toile de fond d'un décor remplacé par une autre. Au-delà des rochers, qui l'entouraient comme d'un rempart, un petit bois de lauriers, de coquetiers, de palmiers, de cèdres et de térébintes
s'étendait jusqu'aux murailles d'un parc, par-dessus lesquelles on entrevoyait les terrasses et les murailles brunies par le soleil d'une antique construction de style espagnol. Une ancienne mission, sans doute, comme l'indiquait la tour carrée du clocher en ruine qui s'élevait à l'une de ses extrémités. Plus loin, de florissantes cultures de froment, d'orge et de maïs roulaient leurs vagues dorées jusqu'au fond de la perspective.
« Nous n'irons pas plus loin, » déclara l'inconnu. « Vous attendrez ici qu'il fasse tout à fait nuit. Je suppose que, pour des lascars de votre trempe, ce n'est pas une affaire que d'escalader un mur. »
Et sans attendre la réponse des deux tramps qui se taisaient angoissés.
« Vous entrerez dans cette villa dont la propriétaire a mis au monde un enfant il y a 5 ou 6 jours. C'est de cet enfant qu'il faut vous emparer. »«
Ce sera fait ?» balbutia Dad d'une voix étranglée.
« Inutile de prendre cet air ahuri, » reprit brusquement l'inconnu. « Je suppose que vous n'êtes pas des poules mouillées. D'ailleurs, vous ne courez pas grand risque. La villa n'est guère habitée que par des femmes. Les travailleurs de la propriété logent plus loin à la fienda qui est située à plus d'un quart de mille de l'habitation des maîtres. Vous attendrez que tout le monde soit endormi. À cause de la chaleur, les fenêtres restent ouvertes toute la nuit. Il vous sera facile de pénétrer dans la chambre de la nourrice et de prendre le baby. »
« Nous vous l'apporterons ?» fit Dad.
Ce n'est pas cela, » répondit l'homme d'une voix lente et posée qui fit frissonner les deux tramps. « Quand vous aurez le baby, vous irez le déposer dans le creux d'une des grandes feuilles que je vous ai montrées tout à l'heure. Il faut qu'on n'entende plus jamais parler de ce baby, pas plus que s'il n'avait jamais existé. »
Dad et Toby étaient de sinistres gredins. Pourtant, et ils se sentirent froids dans les moelles. Ni l'un ni l'autre n'eut le courage de dire un mot. L'inconnu parut prendre leur silence pour un acquiescement.
« Voici $1,000 !» continua-t-il, en remettant une banque-note à Dad. « Je vous en remettrai autant demain matin quand j'aurai eu la preuve que vous m'avez obéi. Je vous attendrai au lever du soleil à l'entrée du ravin. »«
Quelle preuve ?» fit Dad, sachant à peine ce qu'il disait.
« Vous m'apporterez les linges de l'enfant, puis j'irai voir par moi-même si la Dionée a bien accompli sa besogne. Une dernière recommandation, qu'il ne vous vienne pas à l'idée de vous enfuir avant d'avoir rempli vos engagements. Je vous aurai promptement rattrapé, vous devez le comprendre. Si une demi-heure après le lever du soleil vous n'êtes pas au rendez-vous, j'organiserai une battue avec une vingtaine de dogs dans le genre de Dramador, et j'aurai vite fait de vous retrouver. »
En entendant son nom, le dog avait grogné sourdement.
Vous voyez que Bramador me comprend. La façon dont il renifle de votre côté en retroussant ses babines est tout à fait significative. Pour mettre les points sur les i, je veux bien encore vous expliquer que pour gagner la grande route, il n'y a que le sentier bordé de haies de cactus que nous avons suivi, et que ce sentier sera surveillé. Maintenant, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À demain et soyez exacts.
Stupides d'horreur, Dad et Toby étaient encore immobiles et silencieux à la même place que Bramador et son sinistre maître avaient déjà disparu dans la direction du marécage.
« Quel sanglant coquin !» s'écria enfin Toby. « Que le diable m'étrangle si je lui obéis !»«
J'ai bien peur que nous soyons obligés d'en passer par là !» murmura Dad piteusement.
« C'est impossible ! Mon vieux, toi qui es si malin, invente quelque chose, trouve un truc !»
« Je vais chercher, mais ce n'est pas commode. Heureusement que nous avons quelques heures devant nous. »«
Je me demande pourquoi il en veut ce baby. »«
N'est pas difficile à deviner. Il y a probablement là-dessous une question d'argent. » Le soleil déclinait au bas de l'horizon. Les deux tramps s'installèrent au pied d'un gros arbre, aux racines moussues, et se mirent à discuter à voix basse. Chapitre 2. Le rêve de Marthe. La Hacienda de San Iago est peut-être un des plus anciens monuments de toute l'Amérique. Elle remonte au temps de la domination espagnole, comme l'atteste l'immense cour carrée entourée d'un cloître à arcades et décorée à son centre d'un jet d'eau. Enfin, les sculptures de l'antique chapelle, dont la tour renferme encore une cloche et qui a été transformée en magasin à fourrage. C'est dans cette cour intérieure ou patio, merveilleusement adaptée aux exigences du climat, que se déroulait presque toute l'existence paisible
des rares habitants de la hacienda. C'est sous les arcades du cloître, protégées contre l'ardeur du soleil par un rideau de lianes fleuries, que la table était mise à l'heure des repas. C'est là qu'on lisait, qu'on jouait ou qu'on écrivait, là aussi qu'on faisait la sieste et parfois même qu'on dormait, par les chaudes nuits, dans des hamacs suspendus entre les colonnes de la galerie, au murmure berceur du jet d'eau. Et c'est là que, depuis qu'il était né, le petit George Grinnell était bercé, promené et allaité par sa nourrice Marianna, une belle mulâtresse aux grands yeux noirs, toute dévouée à Madame Grinnell, dont elle était la sœur de lait. Encore alitée à la suite de couches laborieuses, Madame Grinnell, par la fenêtre de sa chambre qui donnait sur le patio, pouvait de son chevet surveiller la nourrice et l'enfant, qu'elle ne perdait pour ainsi dire pas de vue. Il ne s'écoulait pas un quart d'heure sans que Madame Grinnell n'appela Marianne. « Apporte-moi le petit Georges !» lui disait-elle. Et elle caressait précautionneusement le petit être fragile, s'oubliant parfois à contempler cette physionomie à peine ébauchée, où elle croyait déjà retrouver les traits d'un mari passionnément aimé, qu'une épidémie de fièvre jaune lui avait ravi, en plein bonheur, 6 mois auparavant. Alors, des larmes venaient aux yeux de la jeune mère, et elle remettait en silence son enfant dans les bras de Marianne. Madame Grinnell était riche, très riche même, mais elle n'était pas heureuse. La mort de son mari avait brisé sa vie. Le chagrin avait failli la tuer. Ce n'est que depuis la naissance du petit Georges qu'elle avait repris goût à l'existence, en sentant tressaillir dans son cœur une fibre nouvelle. D'origine française, elle s'appelait Marthe Noirtier de son nom de jeune fille, Madame Grinnell, à la mort de ses parents, s'était trouvée presque sans ressources sur le pavé de San Francisco. Elle avait dû donner des leçons de français, faire de la couture, et finalement elle était entrée comme dactylographe dans une grande banque, la Mexican Mining Bank. C'est là qu'elle avait fait connaissance de l'ingénieur Grinnell, un Anglais attaché à l'une des exploitations minières que possédait la banque dans l'Arizona. L'ingénieur, qu'un héritage venait de mettre en possession du magnifique domaine de San Diego, avait donné sa démission et avait épousé Marthe Noirtier, dont il appréciait autant que la beauté de blonde menue et délicate, le courage, la loyauté et la douceur. Marthe avait gardé à l'homme qu'il avait arraché à la médiocrité et aux labeurs ingrats, pour lui faire une existence heureuse et large, une infinie gratitude. La tendresse passionnée qu'elle éprouvait pour son mari se doublait de tout ce que la reconnaissance a de plus noble dans une âme généreuse et fière. La mort de son mari avait porté à la jeune femme un coup terrible. Pendant longtemps, elle avait été incapable de s'occuper d'aucune affaire sérieuse. Elle était demeurée des semaines entre la vie et la mort, et pendant qu'elle était ainsi terrassée par la maladie et le chagrin, elle avait failli être dépouillée de la plus grande partie de ce qu'elle possédait. Des collatéraux à vide, entre autres un certain Eliou Cradock, lui avaient intenté un procès, profitant de ce que la rapidité foudroyante du décès de l'ingénieur avait empêché celui-ci de faire un testament en faveur de sa femme. Marianna, très débrouillarde, comme beaucoup de mulâtresses, avait été voir des solicitors, des avocats, avait obtenu du tribunal de Los Angeles un arrêt maintenant Madame Grinnell en possession de ses biens jusqu'à la fin de la grossesse. La naissance de Georges, qui héritait naturellement de son père et demeurait confiée à la tutelle de sa mère, avait fait rentrer les collatéraux dans le néant et mis fin à toute espèce de procès. Aussi, Madame Grinnell regardait Marianna presque comme une parente et avait toute confiance en ses jugements. Marianna, cependant, avait ses faiblesses. L'année d'auparavant, une troupe de cinéma partie de Los Angeles était venue s'installer dans le voisinage de la hacienda. Les opérateurs avaient tourné un film auquel le vieux monastère, avec son cloître et son clocher, faisait un plein air idéal. D'une complexion inflammable, comme toutes les femmes de sa race, la mulâtresse avait eu l'imprudence de prêter l'oreille aux galanteries d'un vague cabotin qui l'avait fasciné par sa belle prestance quand il arborait le col de dentelle, le pourpoint de velours, le feutre à grand plumage et les bottes à entonnoir d'un seigneur du temps de Louis XIII. Quand le brillant mousquetaire était reparti pour New York avec le reste de la troupe, Marianna était enceinte et les lettres qu'elle écrivit à son séducteur demeurèrent sans réponse. L'enfant qu'elle mit au monde ne vécut que quelques jours, et Madame Grinnell, indulgente, fut la première à consoler Marianna de la trahison et de l'abandon dont elle était victime.
La mulâtresse avait reporté sur le petit Georges toute l'affection qu'elle eût eue pour son enfant à elle, et avait voulu servir de nourrice au baby qui, à quelques semaines près, aurait été du même âge que celui qu'elle avait perdu. Marianna occupait une chambre contiguë à celle de Madame Grenelle, et les deux pièces, situées au premier étage, donnaient sur le patio. L'ameublement de cette chambre était très simple. Les murs étaient blanchis à la chaux et le lit de cuivre était entouré d'une moustiquaire de gaze blanche, ainsi que le berceau du baby. Un guéridon supportant un alcarazas plein d'eau fraîche, un rocking chair de bambou et une table de toilette avec quelques flacons. Au plafond, un ventilateur électrique, et c'était tout. La chambre de Madame Grenell, plus vaste, offrait le luxe de vieux meubles aux sculptures prétentieusement contournées, aux incrustations d'étain et d'ébène, achetées à la vente d'une vieille famille espagnole. La jeune femme offrait un fin visage émacié, comme affiné par la maladie et le chagrin, un profil délicat de vierge gothique, nimbé d'une opulente chevelure blond cendré, naturellement crépelée. Qui l'eût vu endormi derrière le rempart de gaz aux rayons de la lune qui entrait par la fenêtre grande ouverte, eût cru à l'apparition de quelque princesse de légende, captive dans les filets d'une méchante fée. Malgré la douceur de cette nuit dont la brise attiédie était chargée du parfum des orangers en fleurs, Marthe dormait d'un mauvais sommeil. Une expression d'angoisse se peignait sur ses traits. Elle soupirait profondément, et des paroles confuses s'échappaient de ses lèvres. Elle était tourmentée par des cauchemars absurdes. Elle rêva qu'elle était encore dactylographe à la banque, mais quelqu'un venait de lui voler sa machine à écrire. Et le voleur n'était autre qu'un cousin de son mari, celui qui avait montré le plus d'acharnement dans le procès, Elihu Craddock, un vrai bandit. Elle courait après lui, éperdument, quand elle s'apercevait que ce n'était plus sa machine qui l'emportait, mais bien le berceau du petit Georges. Elihu s'était fondu dans un brouillard. Maintenant, le berceau flottait sur une mer agitée. Chaque vague l'éloignait un peu plus du rivage, et l'enfant semblait appeler sa mère à son secours en agitant ses petits bras. Puis un étrange monstre, un requin vert, hérissé de piquants comme certains poissons épineux, ouvrit une gueule énorme pour avaler le berceau. Et le requin avait le profil sinistre d'Elihu. La mer s'était brusquement changée en une foule où grouillaient des milliers de faces ricanantes, qui toutes ressemblaient à Elihu. Marthe s'éveilla, le cœur battant à grands coups, le front baigné de sueur. Le clair de lune inondait la chambre de sa lueur argentée et sereine, et dans le profond silence de la nuit, s'élevait seulement la plainte lointaine des feuillages agités par le vent et le murmure du jet d'eau. « Quel vilain rêve !» murmura la jeune femme en frissonnant. « J'ai la fièvre !»« Marianna !» appela-t-elle. Pieds nus, la mulâtresse accourut l'instant d'après. « Que veux-tu, petite Marthe ? » demanda-t-elle à sa sœur de lait, en lui parlant avec les intonations câlines dont on te sert pour parler aux enfants. « J'ai eu un cauchemar. J'ai soif. Donne-moi un peu d'eau et de citron. » Marianna prépara le breuvage rafraîchissant et le fit boire elle-même à Madame Grenell avec une sollicitude toute maternelle. « Dors, petite sœur, lui dit-elle. Je vais baisser la jalousie pour que la lumière de la lune ne te réveille pas. » Doucement, Marthe ferma les yeux et se rendormit. Mais un quart d'heure ne s'était pas écoulé que de nouveau elle se réveilla en sursaut. Il lui avait semblé entendre tout près d'elle chuchoter des voix confuses. « On dirait qu'on a marché sous les galeries du patio, murmura-t-elle. Il me semble que j'entends un bruit de pas qui s'éloigne dans la campagne. Ou bien est-ce le bruit des battements de mon cœur qui tint à mon oreille? J'ai peur. Je vais appeler Marianne. » La fidèle mulâtresse, habituée aux caprices des insomnies de sa chère malade, accourut aussitôt. « Je ne sais ce que j'ai, » dit Marthe à voix basse. « J'ai le cœur serré comme s'il allait m'arriver un malheur. J'ai peur de tout. Écoute comme mon cœur bat. »« Tu es trop nerveuse, » fit doucement Marianne. « Veux-tu que je te donne une cuillerée de la potion calmante ?»« Non, je veux que tu restes près de moi et que tu me parles. Je veux entendre le son de ta voix. Pourtant, il ne faudrait pas laisser Georges tout seul. »« Cela ne fait rien. S'il criait ou même s'il remuait, je l'entendrais d'ici. » « Mais il n'y a pas de danger. Il dort comme un charme. Il n'a pas bougé de la nuit. »« Alors, reste près de moi jusqu'à ce que je me rendorme. Je suis si triste quand je suis toute seule et que je réfléchis. Oh, mon Dieu, il me semble encore entendre des pas et des bruits de voix très loin dans le parc.
Je t'assure que moi, j'en ai rien entendu, dit la mulâtresse avec une inaltérable patience. Tu sais, il y a tant de bruits dans la nuit qui s'expliquent tout naturellement.
De qui aurais-tu peur? Le pays est tranquille. Nous sommes trop près de Los Angeles pour qu'il y ait des bandits. Tu as peut-être raison. Je suis affaiblie, j'ai les nerfs à fleur de peau. Je dois être hallucinée.
Pourquoi n'as-tu pas voulu prendre ta potion?
Non, cela m'assoupit momentanément et je me réveille plus nerveuse encore ensuite. Oh, cette fois, je suis sûre que j'ai entendu un petit cri plaintif, comme un cri d'enfant. Et toujours ces pas qui semblent galoper dans ma pauvre cervelle.
Tu es folle, petite sœur. C'est le cri d'un oiseau de nuit, d'un chat sauvage ou de quelque autre bête que tu as entendu.
Je sais bien que tu as raison, mais c'est plus fort que moi. Je vais essayer de dormir. Tiens, prends ma main, que je te sente près de moi.
Madame Grinnell ferma les yeux et mit sa main blanche dans la longue main brune de Marianne. Mais le sommeil ne venait pas.
Écoute, dit la jeune mère, si tu m'apportais mon petit Georges, je crois que quand je l'aurai embrassé, après je pourrai dormir.
Non, par exemple, déclara la mulâtresse impétueusement.
Il dort d'un bon sommeil, ce serait mal de le réveiller.
Une fois qu'il aurait les yeux ouverts, je ne pourrai plus le rendormir.
Dors toi-même, le soleil se lèvera que tu n'auras pas encore fermé les yeux.
Un nuage passait sur la lune. Une brise venue de la mer rendit tout à coup plus fraîche l'atmosphère embrasée de la nuit. Marthe tout à coup s'endormit, et cette fois pour de bon. Marianne attendit encore quelque temps pour être bien sûre que sa sœur Delaine n'allait pas se réveiller. Puis elle retira doucement sa main que Marthe n'avait pas lâchée et rentra dans sa chambre. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, elle était brisée de fatigue. Elle se jeta sur son lit et presque instantanément tomba dans un de ces sommeils profonds qui ressemblent à la mort. Les premiers rayons du soleil qui filtraient par les interstices des jalousies mal closes l'arrachèrent à ce repos bienfaisant. Avec des mouvements d'une lente et féline souplesse, elle se détira languissamment, rattacha d'une main négligente sa chevelure éparse et sauta en bas de son lit. Comme chaque matin, aussitôt debout, elle courut au berceau du petit Georges. Elle fut d'abord alarmée en voyant que la moustiquaire était ouverte. Un coup d'œil lui révéla la terrible vérité. Le berceau était vide. Stupide d'étonnement et de chagrin, Marianne s'était affaissée sur un siège où elle demeura quelques instants comme anéantie, incapable de réfléchir. Elle ne pouvait se faire à l'idée qu'on eût volé le petit Georges.
« C'est impossible !» répétait-elle machinalement.
Brusquement, elle se releva. « Suis-je donc sotte ? » murmura-t-elle. « C'est Marthe qui s'est réveillée avant moi et qui est venue chercher son petit comme elle fait quelquefois. Elle m'en a donné une peur !»
Presque rassurée, la mulâtresse passa dans la chambre de Madame Grinnell.
Mais celle-ci était encore profondément endormie et l'enfant n'était pas auprès d'elle. Marianna se sentit près de défaillir. Elle tremblait de tout son corps.
« Sainte Vierge ! » balbutia-t-elle. « Que vais-je devenir ? Que dirai-je à la pauvre Marthe quand elle s'éveillera ? Que lui répondrai-je quand elle me demandera ce que j'ai fait de son enfant ? Mon Dieu, je voudrais être morte !»
À cette minute d'abattement, succéda bientôt un accès de fiévreuse énergie.
« Ce n'est pas tout de me lamenter, murmura-t-elle. Il faut que je le trouve, que je le rapporte dans son berceau avant que Marthe soit levée. Il ne peut pas être bien loin. Et je dirai que je n'ai rien vu, rien entendu. Je suis folle. Marthe me tuera si on lui a pris son petit Georges. »
Tout en prononçant ainsi ces phrases incohérentes, Marianna avait quitté sa chambre et ses regards éperdus fouillait les moindres recoins du patio. Puis elle se rendit à la cuisine, où Déborah, une vieille négresse au service de la famille depuis 20 ans, préparait le chocolat du premier lunch. Elle n'osa pas questionner Déborah, ni lui apprendre la funeste nouvelle. Elle s'entêtait dans cette idée qu'il fallait qu'elle retrouvât l'enfant avant qu'on se fût aperçu de sa disparition et qu'elle le retrouverait sûrement. Haletante, affolée, elle parcourut et explora inutilement toutes les pièces de la vaste habitation. Son désespoir, son angoisse, allaient croissant de minute en minute. Elle s'engagea dans le couloir voûté qui faisait communiquer le patio avec le jardin.
La porte du jardin était ouverte. « C'est par là que sont venus ceux qui ont emporté le pauvre petit, » pensa-t-elle. « On a dû oublier de fermer cette porte hier soir et ils en ont profité. »
Elle s'élança par les allées, sachant à peine ce qu'elle faisait. Il lui semblait que son cœur allait se rompre dans sa poitrine, tant il palpitait violemment. Une buée de vertige flottait devant ses yeux. Elle dut s'appuyer quelques instants au tronc d'un cocotier. À ce moment, ses regards s'arrêtèrent sur une jeune tige de bananier toute fraîchement rompue. Plus loin, les arbustes délicats d'un massif étaient saccagés, foulés comme par le passage d'une bête fauve. La mulâtresse comprit qu'elle était sur la trace des ravisseurs.
Mais de quel genre était-il ?
Mariana se rappela avec un tremblement une des histoires que lui contait la vieille négresse qui l'avait élevée et dont la mémoire était abondamment fournie de toutes sortes d'anecdotes terrifiantes. Les Noirs de la région sont persuadés que les chats sauvages se glissent dans le berceau des nouveau-nés, leur entourent le cou de leurs pattes de velours et les étouffent. Ensuite, ils les emportent pour leur sucer le sang à loisir.
« C'est une de ces horribles bêtes qui a dévoré le petit Georges !» se dit la pauvre mulâtresse, plus morte que vive. « Voilà pourquoi je n'ai rien entendu !»
Elle demeura quelque temps sous le coup de cette affreuse supposition. Enfin, elle eut le courage de regarder de près les vestiges accusateurs. Alors, elle distingua sur les plates-bandes les empreintes de pas très nettes qui la conduisirent jusqu'au mur assez élevé, séparant le jardin du parc. Là, les traces d'une effraction étaient nettement visibles. Les lianes qui couronnaient la crête du mur étaient arrachées, les branches d'un abricotier étaient cassées, et les fruits, piétinés, jonchaient le sol. Mariana fut une minute presque consolée, en pensant que le cher petit n'avait pas été la proie d'une bête sauvage. Mais presque aussitôt, une autre suggestion presque aussi désolante s'imposa à son esprit troublé. Elle venait brusquement de se rappeler que le Browning placé au chevet de son lit avait disparu. Ce à quoi, dans son trouble, elle n'avait pas d'abord prêté grande attention. Et en même temps, le procès intenté à Madame Grinnell par ses avides collatéraux lui revenait en mémoire.
« Ce sont eux qui ont fait le coup, » bégaya-t-elle éperdue. « La mort de George les mettrait en possession de la propriété. Il y en a un surtout, Craddock, Elihu Craddock, un vrai bandit qui est capable de tout. »
Avec la vivacité de sensations particulières aux gens de couleur, la mulâtresse entrevit comme dans un éclair Marthe pleurant son enfant assassiné et par surcroît, ruinée, chassée de sa maison, réduite à chercher pour vivre quelque chétif emploi.
« Tout cela par ma faute » s'écria-t-elle à haute voix, « par ma damnée négligence. Si cela est vrai, je n'affronterai pas les reproches de Marthe, je me tuerai, cela vaut mieux. »
Comme rassérénée par cette farouche résolution, Mariana ouvrit la petite porte qui donnait sur le parc et continua à suivre la trace des ravisseurs. Pendant quelque temps, ce lui fut chose facile. Le sol spongieux avait gardé nettement les empreintes. Mais un peu plus loin, les aiguilles tombées des cèdres et des séquoias formaient une couche élastique et sèche où toute trace disparaissait. Désespérée, Mariana continua à errer sous les grands arbres, tournant à droite et à gauche, fouillant les buissons, s'élançant brusquement pour revenir sur ses pas l'instant d'après. Elle était parvenue à l'endroit le plus épais du bois quand un cri d'horreur et d'agonie, un hurlement qui n'avait rien de la voix humaine, s'éleva des profondeurs lointaines et parvint à ses oreilles. Presque immédiatement, la terrifiante clameur s'était tue. La campagne déserte était retombée dans le silence. Glacée d'épouvante, à bout de force, la mulâtresse s'était instinctivement appuyée au tronc d'un arbre, puis avait glissé à terre, privée de sentiments. Chapitre 3. Le prix du sang. Le ciel commençait à peine à blanchir du côté de l'Orient que Dad et Toby, exacts au rendez-vous qui leur avait été assigné, se trouvaient déjà au bord du marécage, au fond de l'inquiétant ravin où ils devaient rencontrer l'homme au chien noir. Dans la pâleur du matin, le terrifique paysage brillait de ce genre de beauté sinistre qui fait admirer les vives couleurs de certains serpents à la piqûre mortelle. La rosée couvrait les feuilles charnues des plantes grasses d'un glacis d'argent. À chacune de leurs pointes acérées tremblait une perle liquide. Partout, de larges orchidées ouvraient leurs calices aux fantasques des coupures. Les grands nymphéas étalaient paresseusement sur l'eau noire leurs larges corolles couleur d'or ou d'azur, et la brise du matin murmurait doucement avec des bruits de soie froissée dans le feuillage des roseaux géants. Une nuée vivante d'énormes moustiques, de libellules rouges ou bleues, de mouches et de coléoptères aux reflets métalliques, de papillons jaunes soufre ou bleus de ciel, tourbillonnait au-dessus du marécage où s'agitait déjà tout un peuple de hideux reptiles. Les arbres vampires, comme affamés par une nuit de jeûne, happaient avec une rapidité silencieuse les insectes qui avaient l'imprudence de s'aventurer entre les coques hérissées d'épines de leurs larges feuilles.
« Moi, ça me fiche la frousse de regarder ça !» grommela Toby. « C'est une vraie hallucination ! Quand je vois ces gueules vertes se refermer sans faire de bruit, que j'entends les insectes bourdonner encore dans l'estomac, si on peut appeler ça un estomac, qui va les digérer, ça me donne le frisson. Je ne puis pas m'empêcher d'avoir l'impression que cet arbre-là est un être qui me voit, qui m'entend, qui m'écoute. Et vrai, j'en ai peur. »
Dad se garda bien de répondre à ces observations quelque peu simplistes. Armé d'un caillou tranchant, il était fort occupé à guetter un gros lézard gris et rose qui, affalé sur une pierre plate, happait béatement des moustiques d'une langue rose, longue et pointue comme une flèche. Brusquement, le bras de Dad se détendit. Le caillou alla frapper le lézard à la tête et le tua net. Quand l'animal ne remua plus, Dad le prit délicatement par la queue et le déposa avec précaution dans le creux d'une des feuilles de la dionée, non sans avoir laissé tomber de nombreuses gouttes de sang sur les feuilles voisines. Les mandibules vertes du monstre végétal s'étaient refermées promptes et silencieuses sur le cadavre du lézard.
« Voilà !» fit Dad en se frottant les mains. « Écoute donc !» murmura Toby. « Il me semble que j'ai entendu comme un aboiement. »«
Ce doit être ce maudit Bloodhound et son damné patron. »«
Attention !»«
Tu sais ce qui est convenu ?»
L'homme venait d'apparaître à l'entrée du ravin. Il marchait à grands pas et paraissait inquiet. Il alla droit aux deux bandits.
« Eh bien !» leur demanda-t-il d'un ton menaçant. « Avez-vous obéi ?»«
La chose est faite !» répondit Dad en prenant une mine apeurée. « Ça n'a pas été sans peine !»«
La preuve que tu mens pas ?»«
Voilà !»
Dad tira de sa poche un médaillon en or auquel pendait un bout de ruban bleu et une minuscule chemise de fine toile, guère plus grande qu'un mouchoir de poche.
« Ça appartenait au baby !» déclara-t-il froidement.
L'homme palpa et retourna la petite chemise avec un sourire hideux, puis la rendit à Dad ainsi que le médaillon.
« Et qu'en as-tu fait ? » demanda-t-il après quelques secondes d'un pénible silence.
« Ce que vous avez dit qu'il fallait en faire, » répondit Dad avec le plus grand calme. « Le baby est là !»
Il montrait la feuille de la dionée, barbouillée de sang et repliée sur elle-même, entre les lames de laquelle avait été précipité le cadavre du lézard. L'homme ne répondit pas. Puis, brusquement, devenu furieux sans cause apparente.
« C'est bon !» cria-t-il aux deux bandits. « Maintenant, foutez-moi le camp plus vite que ça ! Tâchez surtout que je ne vous vois jamais rôder de ce côté-ci !»
« Ce n'est pas ce qui était convenu ?» fit Dad avec le même flegme. « Vous nous devez $1,000 ?
1,000 coups de pied dans le ventre si vous ne détalez pas à l'instant même !»
Le reste de la phrase s'acheva en un grognement indistinct. Avant que son adversaire eût pu deviner comment cela avait pu se faire, Dad avait maintenant en main un superbe Browning avec lequel il le mettait en joue méthodiquement.
« Je croyais que tu n'avais pas d'armes !»
balbutia le bandit pris au piège.
« Il faut croire que j'en ai trouvé !»
ricana Dad Coguenard.
« Allons, haut les mains, vieux sacripant ! Tâche de ne pas bouger si tu tiens ta peau !»«
Puis tu sais, pas de blague avec le Bloodhound. S'il remue seulement une patte, c'est sur toi que je tire !»
Cette recommandation n'était pas inutile. Bramador grondait sourdement et n'attendait qu'un signe de son maître pour s'élancer les crocs en avant.
« Couchez, Bramador, couchez !»
bégaya le bandit d'une voix à peine distincte.
« Vous voyez, je fais tout ce que vous voulez !»
ajouta-t-il, mourant de peur.
« On pourrait s'entendre, je vous promets !»«
Ne promets rien, c'est inutile. Je n'ai pas confiance en toi. Tu n'es pas un homme de parole. J'aime mieux me servir moi-même. À toi, Toby, regarde un peu ce qu'il a dans les poches. »
Grinçant des dents,
Fou de rage et d'humiliation, le bandit dut se laisser dépouiller de son Browning, de ses chargeurs et de son couteau. Mais quand Toby voulut lui prendre son portefeuille, il le saisit à la gorge et, se faisant de son corps un bouclier, en même temps qu'il excitait son Bloodhound contre Ted. Une minute à peine s'écoula, pendant laquelle la lutte se déroula et prit fin avec des péripéties d'une poignante atrocité. N'obéissant qu'à l'instinct qui le portait à attaquer l'adversaire immédiat de son maître, Bramador s'était jeté sur Toby au lieu de s'en prendre à Ted. Ce fut une grande chance pour ce dernier, dont le formidable dog n'eût fait qu'une bouchée. Demeuré très maître de lui, Ted logea une balle presque à bout portant dans l'oreille du chien qui roula à terre, foudroyé. Voyant son allié hors de combat et menacé par le Browning de Ted, l'homme lâcha Toby à moitié étranglé et dont les mollets avaient été entamés par les crocs de Bramador. Pendant que Toby, furieux, reprenait haleine et pansait tant bien que mal sa blessure, Dad, sans cesser de tenir en joue l'ennemi vaincu, réfléchissait avec ce sang-froid qui, au cours de la lutte, avait sauvé la situation. « Qu'est-ce qu'on va faire de cette brute ? » demanda-t-il distraitement, comme s'il se posait la question à lui-même. L'homme eut un regard de fauve pris au piège, mais il ne bougea pas. Il était devenu d'une pâleur livide, il comprenait qu'il avait perdu la partie et qu'il allait falloir payer.
« Tu t'embarrasses de peu de choses, » répliqua haineusement Toby. « Tiens, voilà ce qu'il faut en faire. »
Et avant que Ted eût pu deviner ses intentions, il avait foncé sur l'homme comme un taureau furieux et d'un coup de tête dans le ventre, l'avait lancé dans le marécage. C'est alors que le misérable, lacéré par les aiguilles acérées des plantes mortelles, immergé dans les eaux fétides, pullulantes de sangsues et de reptiles, avait lancé cet appel déchirant que, malgré la distance, avait entendu Marianne. Un instant, la face blême, fendue par un abominable rictus, et dont les prunelles révulsées sortaient de leur orbite, émergea au-dessus des eaux noires. Puis l'homme, il était sans doute devenu fou instantanément, éclata d'un rire aigu convulsif qui fit frissonner d'horreur ses deux bourreaux. Il fit quelques faibles mouvements pour s'arracher à la vase qui l'engluait, et brusquement, il s'enfonça et disparut. Tout à coup, au milieu des cercles qui allaient en s'élargissant sur l'eau dormante, une main noire de fange apparut, chercha éperdument à s'accrocher à quelque chose, se déchira aux épines aiguës des dionées et retomba. Une minute s'écoula. L'eau était redevenue unie comme un miroir entre les larges feuilles des nymphéas géants. Ted et Toby se regardèrent. Ils étaient d'une pâleur de mort. Nul des deux n'osait rompre le premier le silence.
« Allons-nous-en !» dit enfin Dad d'une voix tremblante. « Toute ma vie, j'aurai devant les yeux cette horrible gueule !»
Toby ne répliqua rien, et tous deux, sans prononcer une parole, s'éloignèrent précipitamment de ce paysage d'épouvante. Ils ne retrouvèrent leur sang-froid que lorsqu'ils eurent atteint le bois qui s'étendait jusqu'aux murailles du jardin. Il courait plutôt qu'il ne marchait, et d'instant en instant, il cédait à l'irrésistible besoin de se retourner dans une crainte inavouée et confuse de voir surgir derrière eux l'homme assassiné et son chien noir.
« C'est tout de même une chance, » dit enfin Ted, « que j'ai trouvé un Browning dans la chambre de la nourrice. Sans ça, c'est probablement nous qui servirions à l'heure qu'il est de pâture aux sangsues. Enfin, tout est bien qui finit bien. Maintenant, nous revoilà en fond. C'est vrai, au fait, nous n'avons seulement pas pensé à regarder ce qu'il y a dans le portefeuille. »
Toby exhiba une solide pochette de cuir de bœuf, comme en portent les cowboys. Elle contenait $2000, de la menue monnaie, et divers papiers au nom d'Elihu Craddock, prospecteur. Les deux bandits se débarrassèrent des papiers, qui ne pouvaient que les compromettre, et se partagèrent loyalement les banknotes.
« Tout va bien !»
s'écria Dad, qui, petit à petit, reprenait son entrain.
« Il ne nous reste plus maintenant qu'à exécuter la seconde partie du programme. Ou je ne suis qu'un âne, ou nous avons encore aujourd'hui à encaisser des dividendes intéressants, comme on disait à la banque Rabbington. »«
Tu crois ?» demanda Toby avec hésitation.
« J'en suis sûr.
Ne serait-il pas plus sage, puisque nous avons de l'argent, de prendre le train immédiatement ? Il me tarde d'être loin de ce maudit pays. »«
Quel chien de poltron tu fais ?» grommela Dad en haussant les épaules. « Je te dis que je réponds tout. »
Et sans plus se préoccuper de son compagnon, Dad se mit à la recherche de certains arbres dont, quelques heures auparavant, il avait entaillé les écorces et qui devait lui servir à retrouver son chemin. Les entailles le conduisirent directement au pied d'un vieux chêne, dont le feuillage dominait de sa masse imposante les arbres avoisinants.
Chapitre 4. Vers le Mexique. L'évanouissement de Marianna avait été de peu de durée. La fraîcheur du sous-bois, humide de rosée, l'avait promptement fait revenir à elle. Mais en reprenant conscience de sa navrante situation, la pauvre mulâtresse sentit renaître ses angoisses et son chagrin. L'espoir qu'elle avait un instant caressé de retrouver l'enfant avant qu'on se fût aperçu de sa disparition s'était évanoui. Le cœur gonflé d'amertume, elle se disait qu'il ne lui restait plus qu'à aller apprendre à Marthe la terrible nouvelle, et elle tremblait à la seule pensée de la scène qui allait se produire. Puis les travailleurs de la plantation battraient le pays dans toutes les directions et, peut-être, retrouveraient-ils le petit Georges. Là-dessus, d'ailleurs, elle ne se faisait aucune illusion. L'enfant était perdu pour toujours. Ceux qui l'avaient enlevé avaient dû machiner leur coup de longue date et prendre toutes les précautions pour s'assurer l'impunité. Elle ne doutait pas que le coupable ne fût Elihu Craddock, dont elle se rappelait la physionomie sinistre pour l'avoir vu une ou deux fois au moment du procès. Et elle n'osait songer à ce que le bandit avait pu faire d'une innocente baby tombée entre ses mains. Torturée par les horribles images qui se présentaient à son esprit, Marianna pleurait à chaudes larmes. Elle eût voulu mourir. À l'idée d'un suicide, qui mettrait fin d'un seul coup aux tortures morales qu'elle endurait, se précisait de plus en plus dans son esprit. Lentement, comme à regret, elle se dirigeait vers la porte du jardin, et à mesure qu'elle s'en rapprochait, sa démarche devenait plus hésitante. Elle poussait de profonds soupirs. « Non, c'est impossible, » bégaya-t-elle. « Je n'oserai jamais. » Elle fit encore quelques pas et se trouva tout à coup nez à nez avec un adolescent dépenaillé et d'une remarquable laideur, dans lequel on a sans doute reconnu Petit Ed, qui, lui aussi, se dirigeait vers la porte du jardin. En l'apercevant, Marianna avait eu un mouvement de recul. Ed, dont le coup d'œil perçant avait tout de suite reconnu la femme dans la chambre de laquelle il s'était introduit la nuit précédente, comprit qu'il fallait tout d'abord la rassurer. « Vous pleurez ?» lui dit-il de sa voix la plus douce. « Si vous êtes la personne que je pense, je suis peut-être en mesure de vous consoler. »« Que voulez-vous dire ?» s'écria la mulâtresse, se raccrochant avidement au vague espoir que lui suggérait la phrase de l'inconnu. « Figurez-vous, » ajouta-t-il d'un ton persuasif, « qu'un de mes camarades et moi, nous sommes deux pauvres diables de tramps, nous avons trouvé un petit enfant. » « Oh, si vous pouviez dire vrai !» fit Marianna en joignant les mains. « Je crois que je deviendrai folle de joie. Vous ne voulez pas vous moquer de moi, au moins? Répétez-moi que c'est bien vrai, que vous avez trouvé un enfant. » « C'est tout ce qu'il y a de plus vrai !» déclara Dad solennellement. « Je vous en donne ma parole d'honneur. D'ailleurs, vous allez le voir dans un instant. Il est ici, à deux pas. Où cela ? Non, je ne peux pas croire que c'est vrai. Je vous en supplie, montrez-le-moi. Je meurs d'impatience. Calmez-vous, je vous répète qu'il est là. Hé, Toby, apporte le baby. » Mon camarade, ajouta-t-il, est resté un peu en arrière. Il marche très doucement pour ne pas réveiller le petit. La vérité, c'est que Dad, qui était en toute chose d'une extrême prudence, s'était dit qu'en arrivant avec l'enfant dans les bras, il risquait tout d'abord d'être pris pour le voleur. De la façon dont il avait arrangé la chose, une méprise, même momentanée, n'était pas possible. Toby ne tarda pas à paraître, portant avec précaution le petit Georges. Avec la rapidité d'un vautour qui fond sur sa proie, Marianna s'était jetée sur l'enfant, l'arrachant presque des bras de Toby. Et elle le couvrait de baisers et de caresses, riant et pleurant à la fois. Ainsi bousculé, le petit Georges se mit lui aussi à pleurer. Et la mulâtresse se souvint tout à coup qu'il n'avait pas bu depuis le milieu de la nuit. « Pauvre chéri, » murmura-t-elle, « il meurt de faim, et moi qui n'y pensais pas. » Elle dégrafa précipitamment son peignoir, elle donna le sein à l'enfant qui, aussitôt calmé, se mit à boire avidement. Assise sur une grosse racine d'arbre et couvant des yeux le cher bébé reconquis, Marianna demeurait silencieuse. Toute à la joie immense qu'elle ressentait, le regard perdu dans un rêve. On eût dit que maintenant qu'elle le tenait, il lui était égal de savoir comment il avait été volé, puis retrouvé.
En diplomate avisé, Dad attendait patiemment qu'elle le questionnât. Il tenait toute prête une histoire suffisamment vraisemblable.
« Mon camarade et moi, raconta-t-il, nous avons passé la nuit dans les bois. Nous cherchions à regagner la grande route quand nous avons aperçu un homme qui marchait en se retournant fréquemment, comme quelqu'un qui vient de faire un mauvais coup. Il portait ce bébé dans ses bras et il était suivi d'un grand chien noir.
« Un chien noir ?» interrompit Marianne. « C'est certainement Eliou. J'en étais sûre. »
Les allures de cet homme nous parurent suspectes. Nous le suivîmes sans nous montrer pour voir ce qu'il allait faire. Il s'arrêta au pied d'un chêne dont le trou est entièrement creux et y cacha l'enfant après lui avoir arrangé un lit de mousse et avoir dissimulé la cavité avec des branchages.
Dad aurait pu fournir des détails encore plus circonstanciés, car c'était lui-même qui avait eu l'idée de la cachette et qui avait exécuté tout ce qu'il mettait sur le compte de l'homme au chien noir.
« Vous comprenez, conclut-il, que dès que le bandit a eu les talons tournés, nous nous sommes emparés du petit avec l'intention de le rapporter à ses parents, si nous parvenions à les découvrir. »
Dad ajouta modestement.
« Nous n'avons fait que notre devoir. Tous les honnêtes gens à notre place auraient agi de la même façon. »
« Vous êtes de braves garçons, » fit Marianne tout émue. « Et moi qui ne vous ai seulement pas remercié. Je ne sais pas où j'ai la tête. Mais vous n'avez rien perdu pour attendre. Et aujourd'hui, vous pourrez vous vanter d'avoir fait une bonne journée. Grâce à Dieu, vous n'avez pas affaire à une ingrate. »
« Quand on a fait une bonne action, on a fait une bonne journée, »
répliqua Dad d'un petit air cafard, sans soupçonner aucunement qu'il rééditait une pensée de l'empereur Titus.
« Venez avec moi, » dit la mulâtresse. « Je vais commencer par vous servir un lunch solide, et ensuite... »«
Impossible !» répliqua Dad, toujours circonspect.
« Il faut que nous prenions le train. J'ai une sœur très malade qui m'attend, et de plus, on nous a promis du travail dans une usine à 8 000 d'ici. »
« Tant pis. Alors, attendez-moi là. Je vais revenir dans 5 minutes. Vous serez content de moi, je vous le promets. » Toute joyeuse, Marianna disparut avec l'enfant par la porte du jardin qu'elle laissa entrebâillée. Elle ne revint qu'au bout d'une demi-heure, et les deux bandits commençaient à trouver le temps long, quand elle apparut, pliant sous le faix de toutes sortes d'objets. C'était d'abord un sac de toile, gonflé de pain, de jambon, de boîtes de conserve, sans oublier une petite fiole de whisky. Puis un paquet de vieux vêtements encore assez présentables, parmi lesquels il y avait une robe de femme et un corsage pour la prétendue sœur de Dad. Enfin, une boîte qui renfermait du savon, du tabac, un peigne et un rasoir.
« Ce n'est pas tout, » dit Marianna en leur présentant une enveloppe. « Madame Greenell vous remercie infiniment et vous prie d'accepter ce banknote pour vous aider à sortir d'affaires.
Elle a été très contrariée que vous refusiez de passer quelques jours à la hacienda. » La banknote était un billet de $500.
Je suis confus de vous monter,
s'écria Dad avec une émotion réelle, ou tout au moins fort bien jouée.
Mistress, permettez-moi de vous embrasser.
Marianne s'exécuta de bonne grâce et dut aussi subir l'accolade de Toby, qui tenait à se montrer à la hauteur de son compagnon. Quand la porte du jardin se fut refermée sur la généreuse mulâtresse, Dad et Toby exécutèrent une véritable gigue, tellement ils étaient satisfaits de la tournure des événements. L'avenir leur apparaissait sous les plus riantes couleurs. Tout d'abord, ils se jetèrent sur les provisions, comme des loups affamés, mangèrent comme des ogres et ne laissèrent pas une goutte de whisky. Ensuite, Toby se rasa et revêtit un complet assez propre, trouvé dans un des paquets.
« Supprime donc ta moustache !» lui conseilla Dad. « Tu sais que ton signalement est affiché partout. »
« Tu as raison, mais... pourquoi ne changes-tu pas de vêtements? Il y en a là un qui t'irait très bien. »
« Moi, j'ai une autre idée, » fit le jeune bandit,
fort occupé à examiner le corsage et la robe destinée à sa sœur.
« Que vas-tu faire ? » ?»« Tout simplement me camoufler en petite vieille, comme cela m'est déjà arrivé. Je suis assez laid pour cela. Quant à toi, je vais te passer au jus de tabac, et tu feras un mulâtre superbe. Je parierai que la gare, située à 2 000 d'ici, est infestée de policemen. Il faut prendre ses précautions. »
2 heures plus tard, en dépit du policeman, installé en face du guichet de distribution des billets, Dad et Toby, grâce à leur déguisement, purent prendre place sans encombre dans un train à destination du Texas. Ils se rendaient à Mexico.